Donc, l'évangélisation a été promise. Et par exemple, prenons l'épître aux Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. Elle a été promise, c'est Dieu qui a promis cette extension de, on va voir, de ce qu'on appelle l'évangile. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Ça va? Donc, du papier débit que vous pouvez en prendre. Et de toute façon, ça sera mis sur le site où vous pourrez y retourner à l'aise. En Galates chapitre 3, verset 6, comme Abraham. C'est 22 siècles avant Jésus, à cheval sur le 22e, 21e siècle avant Jésus. Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que Dieu lui a pardonné ses péchés et l'a rendu, a balayé son addition, sa facture, l'a rendu juste à ses yeux. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est clair, c'est la foi. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, donc les non-juifs, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Genèse chapitre 12, verset 3. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voilà, ça c'est fondamental. Paul parle comme ça souvent, à plusieurs reprises. On verra qu'il n'y a pas que Paul. Dans le chapitre 3, toujours, il y a le verset 14. Donc, au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Galates 3, 13, « La malédiction de la loi, parce que personne n'a accompli parfaitement les 10 commandements. Hein. » Donc, on est tous en infraction, en compromis, en opposition à Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a porté notre péché, notre condamnation, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus était pendu au bois à notre place, pour porter notre châtiment, notre malédiction, et pour ensuite ressusciter. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis. Donc la bénédiction d'Abraham qui a été faite au chapitre 12, hein, et 13, 14, 17 de Genèse, Abraham, qu'il y aurait de nombreuses nations bénies, autant que les grains de sable de la mer, les étoiles du ciel, eh bien effectivement, Paul reprend cela en disant que c'est l'accomplissement de tout cela se fait par Jésus. Parce que il peut, par son sacrifice, il peut ensuite donner l'Esprit Saint pour nous rendre enfants de Dieu. Alors, au verset 18, à la fin du verset 18, si l'héritage venait de la loi, donc des 10 commandements, l'héritage, c'est-à-dire la vie éternelle, il ne viendrait plus de la promesse. Il n'y a pas besoin de promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham que nous recevons ce don de sa grâce. C'est dans la fin du verset 18, le don de la grâce, c'est un pardon gratuit, sans aucun mérite, fait purement gratuitement par Dieu, à cause que Jésus a payé pour nous. Au verset 20, 26 et 29, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, donc des païens. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier du salut selon sa promesse. La promesse faite à Abraham. On voit clairement que ce qui a été donné par Jésus, c'est l'évangile. C'est ça, c'est la grâce du salut. C'est un cadeau de Dieu. Et déjà, les prophètes avaient reçu cette promesse. Dans Galates, chapitre 5, verset 13, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, puisque vous avez été appelés à la liberté, donc plus à l'esclavage religieux, à la peur, à l'angoisse du châtiment de Dieu, à ne pas savoir si je suis sauvé ou pas, est-ce que je dois faire mille et une choses pour être sauvé, puis s'il m'en manque une, je suis fichu, foutu, c'est pas ça. Vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon l'humain, selon la chair. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez donc garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Marchez selon l'Esprit, l'Esprit Saint donc, et vous n'accomplirez pas les désirs de l'humain. Et donc, il y a réellement une nouveauté avec Jésus, c'est qu'on n'a plus la crainte de l'enfer, on peut avoir une complète confiance si on a accepté Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et une pleine confiance, mais qui ne nous autorise pas à faire n'importe quoi. On est appelé à vivre dans la liberté de l'Esprit Saint, pas dans la liberté charnelle, humaine. Prenons Romains, chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 11. Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? C'est-à-dire qu'ils ont refusé Jésus ? Est-ce que c'est pour être jeté en enfer? C'est ça que ça veut dire. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que c'est pour aller en enfer qu'ils ont refusé Jésus? Non, loin de là, c'est pas vrai. Mais par leur chute, par le refus de Jésus, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités ensuite à la jalousie. Si leur chute, donc le refus de Jésus, a été la richesse du monde et leur amoindrissement, donc la dispersion avec Titus, etc., dans le monde... Des Juifs, oui. Leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, ils vont tous se convertir un jour. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu de les rappeler. La grâce est aussi pour le peuple juif, même s'il a refusé Jésus. Au verset 15, sur leur mise à l'écart, c'est-à-dire pendant tout un temps, ils ont été rejetés de tout le monde, hein, a été la réconciliation du monde. Tout le monde a pu s'approcher du salut, de l'évangile. Que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc, d'une réconciliation profonde avec Dieu. Et donc, Paul le dit, franchement, il y aura une réconciliation profonde entre Dieu et le peuple juif, comme les nations ont pu en disposer. Au verset 25... Romains 11, verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. » Quand on voit mystère dans les épîtres de Paul, ça veut dire cette réalité que Dieu nous fait comprendre progressivement. Plus notre foi grandit, plus on comprend. « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. » Donc, il ne faut pas avoir d'orgueil. Il oui, il est là. Hein. Il est là. Regardiez point comme sage, comme plus haut que les Juifs, hein, c'est ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ok ? La totalité des païens soit entrée dans l'Évangile, dans le salut. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, Jérusalem, détournera de Jacob, donc les Juifs, les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. On voit bien qu'il faut que Dieu ôte les péchés, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Ça, c'est clair, c'est valable pour nous tous. Alors, verset 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, vous les païens, vous avez péché, vous avez désobéi à Dieu, et puis grâce à l'évangile qui s'est répandu au travers du bassin méditerranéen, le monde, parce que vous avez été rejetés et chassés par les juifs, maintenant vous avez obtenu le salut, la miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Par le salut que vous avez, vous allez leur apporter aussi la même grâce. Ils vont retrouver ce contact, cette relation avec Dieu, par votre témoignage. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça, c'est très important. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout homme doit se rendre compte qu'il est coincé dans son péché, qu'il ne sait pas s'en sortir. À partir du moment-là, il crie au secours, il demande pardon, et Dieu l'en libère, lui pardonne. Mais on ne se dégage pas du péché comme ça. C'est trop puissant. Et ce qu'il y a, Dieu veut faire miséricorde à tous. Il a un but, c'est sauver tous les humains. Est-ce que tous les humains vont accepter ça? On a bien vu que ce n'est pas le cas. Hein? Autrement, la salle serait remplie ici. Mais ce qu'il y a, c'est fort important de se rendre compte que le but de Dieu est généreux et gracieux. Il n'est pas égoïste, limitatif. Chapitre 14 de Romains, verset 8. Chapitre 14, verset 8. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Imaginez ce que ça veut dire. Nous lui appartenons, nous sommes réconciliés pour toujours avec Dieu. Quand on respire ou on ne respire plus, c'est idem. Car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, le Christ, quand il rentre dans ma vie, domine sur ma vie présente et il domine sur ma mort. C'est-à-dire, il va me ressusciter. Voilà, ça c'est extrêmement important. Quel que soit l'état, qu'on soit en bonne forme, qu'on soit malade, qu'on meure, on passera toujours le cap suivant, c'est la vie de Christ, c'est la vie en Christ, la vie du ressuscité. Ça, c'est l'évangélisation, c'est ça que ça veut dire. Et alors, Matthieu 28, versets 18 à 20. En fait, nous nous reposons sur des promesses qui sont pour tous les hommes. Ce n'est pas des promesses égoïstes, c'est pour tous les hommes. Et c'est des promesses d'amour, de vie éternelle. Donc, Matthieu, chapitre 28, verset... je vais commencer au 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, donc c'est le mont Tabor, cette fois-ci, hein, parce que l'autre, la transfiguration devant Élie et Moïse, Pierre, Jacques et Jean, c'était sur le mont Hermon. Ici, à la fin, quand Jésus va s'en aller auprès de son Père, c'est sur le mont Tabor, dans la vallée du Nord, la vallée de la Galilée. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez que chacun fait son choix. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations, voilà, tout le monde est concerné, des disciples, donc des enseignés. Il faut leur apprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné. Et je vous dis pour clairement que la plus grande richesse de l'enseignement de Jésus, c'est Matthieu 5 à 7. Quand on veut savoir vraiment ce que Jésus a proposé comme transformation de l'individu, c'est Matthieu 5 à 7. Là, c'est la clé de tout. Alors, c'est le choc total. Celui qui lit Matthieu 5 à 7, il se rend compte qu'on n'en a pas parlé dans le Coran, ni dans la Bhagavad Gita, ni dans aucun livre. Personne n'a parlé comme Jésus dans ces chapitres-là. 5, 6 et 7 de Matthieu. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, qu'ils aient l'enseignement de Jésus, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il faut leur apprendre qu'il faut obéir à ces paroles de Jésus, à ces paroles saintes de Jésus, ces paroles de transformation qui touchent notre cœur, qui nous amènent à ressembler à Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'évangélisation, c'est pas simplement d'aller dire et de baptiser. L'évangélisation, c'est en présence du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence du Christ dans l'évangélisation est nécessaire. Alors, ça, c'est très important ce que je vous affirme. L'évangélisation est toujours spirituelle. Elle passe toujours par la présence de Jésus-Christ et par des gens qui aiment le Seigneur Jésus. Si on entend quelqu'un parler de Jésus et de la foi chrétienne et qu'il ne vit pas avec le Seigneur Jésus, qu'il ne met pas sa vie en conformité avec l'enseignement de Jésus, il n'évangélise pas, il christianise, il veut que les gens se ressentent tous et tous aient une même étiquette chrétienne. La christianisation n'a pas besoin de la présence du Seigneur Jésus. Elle a besoin de gens persuasifs, de fins discoureurs, de gens qui ont de l'influence, qui ont du bagou. Et la christianisation ne fait pas que les gens ont compris qui est Jésus, ne font pas l'expérience de Jésus. Et il faut faire attention. L'évangélisation se fait dans la relation avec Jésus, dans l'obéissance avec Jésus, et pour tous les hommes sans distinction, c'est la présence de Jésus qui sauve. C'est jamais le prédicateur, c'est jamais une institution, une organisation qui sauve. Ça, c'est l'évangélisation. Souvent, dans les livres, par exemple le livre que j'avais l'autre jour, que je représenterai à d'autres conférences, l'Atlas d'Histoire, montrerai la progression du christianisme à travers le monde, c'est la progression de la christianisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la progression de la christianisation, on va voir qu'au XIe siècle, en Ukraine, le christianisme est arrivé par le sud, par les Grecs, etc. Puis ensuite en Russie. Mais c'est pas la même chose que l'évangélisation. Dans l'évangélisation, prenez les actes des apôtres, au chapitre 2. Vous allez voir que l'évangélisation a été faite tout de suite. Et il n'y a pas besoin de regarder un atlas d'histoire en disant « ils n'ont connu l'évangile qu'au XIe siècle ». C'est faux. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on entend, à ce qu'on nous dit. Et il faut analyser les choses avec profondeur, comme Jésus l'a demandé. Acte 2. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Acte 2, à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est donné et tous les apôtres parlent dans des langues véhiculaires, contemporaines, à des gens, à des juifs qui sont de différentes régions du monde et qui ne parlent que la langue de leur pays. Ce sont des juifs qui sont partis à travers le monde, s'installer, et qui ne connaissent pas l'araméen, ne connaissent pas l'hébreu, et ils viennent au temple à Jérusalem offrir des sacrifices. Ils viennent avec de l'argent, ils achètent des animaux pour leur péché, ils veulent fêter la Pâque juive. Bon, mais ces gens-là, ils vont retourner dans leur pays. Alors, je vais prendre ceci, au verset 5, chapitre 2, verset 5, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Imaginez ce que ça veut dire. Au bruit, depuis Nebuchadnezzar, en 605 avant Jésus, ça a été la dispersion totale. Le temple avait été détruit.
C'est quel verset quoi?
Acte 2, 6. Le 5, je viens de le lire, Aussi, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et surprise et se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens, tous des Galiléens, donc des paysans, si vous voulez, des gens sans instruction, d'un pays, d'un arrière-pays, quoi. Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. Partent. Vous avez vu? Les Parthes, c'est qui? C'est la région de la Bulgarie et de l'Ukraine. Mède, Élamite, sa région de l'Afghanistan et de l'Iran. Ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est la Syrie et l'Irak. La Judée, c'est la région de Jérusalem. La Cappadoce, c'est une région à l'est de la Turquie. Le pont, c'est une région centrale. L'Asie, ben c'est tous ces pays-là au-dessus de la Turquie, comme le Kazakhstan, etc. Alors, la Phrygie, une partie où, là, vous voyez où il y a Istanbul, à gauche, là, c'est Phrygie. Alors, la Pamphylie, c'est une région centrale aussi dans le nord-ouest de la Turquie. L'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Donc, c'est-à-dire, il y a l'Égypte, il y a la Cyrénaïque et la Libye. Hein, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc, des juifs de Rome, d'accord. Mais prosélytes, ça veut dire des non-juifs qui aiment le Dieu d'Israël, qui aiment les prophètes, qui aiment la Bible, et qui sont venus aussi à Jérusalem, et qui ne sont pas circoncis, etc. Et regardez ce qu'il y a mis au verset 11. « Crée-toi, c'est une nation à part, hein, Sittim, dans les noms de la Bible, c'était Sittim, et Arabe. Comment les entendons-nous? Entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» On voit bien qu'ici, l'Évangile, poum, l'Évangile s'est répandu. Or, si on prend des cartes d'Atlas historique, il y a plein de régions là citées, on ne verra que le christianisme s'implanter que plusieurs siècles plus tard. Donc, il faut savoir ceci. Les historiens regardent à la christianisation. Ils ne regardent pas à l'évangélisation. La christianisation, c'est l'installation d'une société politisée à majorité chrétienne, orthodoxe, catholique, etc., protestante. La christianisation, c'est une majorité de gens qui dominent dans la société et qui ont une confession religieuse, qui se réclament de Jésus, qui ne sont pas forcément convertis. Mais l'évangélisation n'est pas institutionnelle, elle n'est pas politisée, elle n'est pas mercantile, elle n'est pas dominatrice. Tandis que dans le cas de la christianisation, eh bien, à un moment donné, en force, on devient les maîtres de l'endroit et tout le monde se conforme. Et si ça prend du temps, ça prend du temps. Si ça va vite, ça va vite. Je vais prendre un exemple. En Géorgie, au IIIe siècle, vers les 320, c'était un roi féroce. En Géorgie, il massacrait, il tuait les chrétiens, etc. Et voilà ce qui se passe. C'est qu'on lui vend une petite esclave qui sert sa famille, qui sert tout près de lui. Et c'était une chrétienne venue de Turquie. Et cette brave petite, elle a été tellement exceptionnelle, elle ne répondait jamais aux moqueries, aux sales coups qu'on lui faisait, elle pardonnait, elle répondait avec amour, elle rendait service tout le temps. Si bien que le roi de Géorgie s'est trouvé confondu plusieurs fois en se disant « Mais elle n'est pas normale, cette fille-là » Et finalement, après plusieurs années, il lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu es différente de tous les autres esclaves que j'ai achetés? Pourquoi est-ce que tu es comme ça ?» Et finalement, cet homme a accepté Jésus dans sa vie. Lui, il s'est réellement converti. Ça, c'est de l'évangélisation par cette petite femme. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit à tout son pays? Vous deviendrez chrétien. Ça, c'est de la christianisation. Parce que les gens n'ont pas choisi, ils doivent suivre. Ou si, il y en a peut-être qui ont été d'accord. Mais le roi, lui, ça, c'était de l'évangélisation. Peut-être sa famille aussi. Vous voyez la différence que je veux faire entre les deux? C'est que l'évangélisation touche le cœur, touche l'âme et demande une transformation. Tandis que la christianisation, elle change les apparences, elle change une partie des mœurs. Bien sûr, dans certaines régions où on volait, on tuait, on assassinait, ça devient chrétien, et bien on se calme à 95%. Mais, si un autre pays à côté qui se dit chrétien aussi et qu'on n'est pas d'accord avec, on fait la guerre. Parce qu'ils sont christianisés. S'ils étaient vraiment évangélisés, ils ne se feraient pas la guerre. Ça a été le problème de l'Europe en 14-18, 40-45. Si réellement l'Évangile était vraiment implanté dans les cœurs, on n'aurait pas, on serait pas trucidé de cette manière-là. Déjà avant, hein, les guerres de 100 ans, guerres de 30 ans. Donc on voit bien que l'évangélisation est très différente. C'est quelque chose de profond qui touche la nature même de la personne. La christianisation, c'est une mise en cadre, une mise en forme de gens avec une croix, avec des bâtiments, avec des rites, et bien sûr des changements. C'est certainement, la christianisation a apporté du bon, mais elle n'a pas apporté forcément le salut. Sauf que, dans tous ceux qui ont été christianisés, il y en a réellement qui ont reçu la grâce et qui ont été sauvés. Et c'est ça actuellement dans notre société. Une société qui, il y a 80 ans, était christianisée, puisqu'ils n'ont pas été touchés par la grâce, ils en pardonnent tout. Sauf ceux qui ont été touchés, ils continuent. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut faire attention, et c'est comme ça qu'il faut faire la différence. Alors, on va continuer dans les actes des apôtres. Je prendrai d'autres exemples historiques pour vous expliquer. Dans les actes des apôtres, au chapitre 2.
Quand on voit les voyages de Paul, par exemple, moi ici dans ma Bible, c'est terrible. Il y a les voyages missionnaires de Paul. Il en a fait des kilomètres et oui. Il en a établi des églises.
Oui, mais c'est des petites églises, des petites communautés.
Oui.
Et ça coûtait cher.
Oui. Hein? C'est incroyable.
Mais ça, c'est de l'évangélisation.
Oui.
Il n'a pas pu forcer la main à qui que ce soit. C'est plutôt lui qui s'est fait taper dessus. Alors, continuons. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Quand Pierre, voilà un homme qui ne savait pas parler, et un homme qui a trahi Jésus, tout d'un coup, avec le Saint-Esprit, le voilà complètement transformé. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle aux Juifs. Aux Juifs qui sont devenus ses ennemis, puisque lui, il est disciple de Jésus. Mm-hmm. Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, là, il leur met sous le nez. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, ben oui, c'est annoncé dans Isaïe 53, dans le psaume 22, etc., et dans Genèse 22, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, donc des Romains. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Tu n'abandonneras pas mon âme dans ces jours des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ça, c'est le psaume 16, versets 8 à 11. Ça, c'est une prophétie de David concernant Jésus qui est dans le tombeau. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David que lui, il est mort, qu'il est enseveli. Son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ses jours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Voilà l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis, il l'a répandu sur tous les chrétiens. À la Pentecôte. Comme vous le voyez, il entendit, David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc dans psaume 110, le Père a dit à Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et clairement, il y a 4000 convertis d'un coup. Pourquoi ? Mais parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des guérisons, il y a des miracles. Jésus apparaît. Ils ne peuvent pas éviter la réalité. Alors, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, donc l'évangélisation, au départ, avec les apôtres, s'est faite par l'intervention directe du Christ ressuscité, souvent. Au chapitre 3, vous voyez la guérison d'un homme boiteux qui était à l'entrée du temple, qui ne savait plus marcher et qui mendiait. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas d'or et d'argent à lui donner, puisqu'il n'y a plus besoin d'en donner, ils sont sauvés. Les autres, ils vont donner dans le temple, dans le tronc, parce qu'ils veulent être sauvés. Mais Pierre, Jacques et Jean, eux, n'ont pas besoin de donner des sous, ils sont sauvés. Jésus a payé pour eux. Donc, au verset 6, Pierre leur dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et l'homme est guéri, il se lève. Bon, naturellement, il va falloir s'expliquer. Verset 12, « Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance, notre piété, que nous avons fait marcher cet homme ?» Alors, il dit simplement, « Nous, nous n'y sommes pour rien. » Et il va expliquer, au verset 16, « C'est par la foi en son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » C'est le Christ présent là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, qui agit. Souvent, tous les apôtres ont eu une intervention du Christ pour appuyer leur témoignage, leur ministère. C'est extrêmement important de savoir que même aujourd'hui, un témoignage efficace doit toujours être accompagné de l'intervention du Seigneur Jésus. C'est impossible autrement. L'homme ne peut pas convertir un autre homme. L'homme ne peut pas amener un autre homme à Jésus sans l'intervention du Christ. Ça, c'est une clé. L'évangélisation, c'est ça. Alors, quels hommes ? Quels hommes ? Ben, prenons le psaume 87. On va voir que beaucoup d'hommes sont concernés. On l'a déjà vu, hein ? Dans acte 2. Et regardons le psaume 87. On serait étonné de voir que parfois des gens, on se dit, ben, ils n'ont rien à voir avec l'évangile, avec le christianisme. Oui, ils n'ont rien à voir avec le monde chrétien, christianisé. Mais Jésus est tout puissant, il peut intervenir là où il veut. Psaume 87, écrit mille ans avant Jésus. Elle est fondée sur une montagne sainte. Quoi ? La maison de Dieu. À Jérusalem. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Toutes les villes, toutes les maisons des Juifs. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, Babylone, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, qui a été traduit en latin Palestina, ça a donné palestinien. Tyr, c'est le Liban, l'Éthiopie, ça c'est le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Qu'est-ce qui est dit là ? Ils sont nés comment ? Ben non, ils ne sont pas nés physiquement là-bas. Ils sont nés dans l'Esprit Saint, là. C'est de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. C'est le Très-Haut, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas l'homme. L'Éternel en compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Donc à Jérusalem, il y aura un moment donné où la grâce va être donnée à des peuples qui ne connaissent rien de Jésus-Christ. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent écrient « Toutes mes sources sont à toi ». Là, on a une promesse faite par Dieu dans le psaume 87 qui est révélée à notre ami David. Prenons Amos, chapitre 3, verset 7. Même si nous pourrions nous décourager en voyant dans nos régions ici des intérêts, il ne faut jamais se décourager. Dieu est bien plus puissant et intelligent que nous pour redresser tout ça. Amos 3, 7. Amos 3, 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc clairement, dans les prophéties, il y a un secret de Dieu, et c'est quoi? C'est le salut. Verset 8, « Le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ?» La prophétie de Dieu à travers les prophètes et à travers Jésus, à travers les apôtres, est aussi puissante que le cri du lion. C'est ça que ça veut dire. Et le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Il y a un moment donné, les personnes vont être impressionnées par l'action du Christ sur terre. Très impressionnées. Jérémie 23, verset 24. Jérémie 23, chapitre 23, verset 24. Jérémie, chapitre 23, verset 24.
Chapitre 3.
23.
Ah, 23.
Je vais commencer au verset 23. Jérémie 23, 23. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel. Ne suis-je pas Dieu aussi Dieu de loin, c'est-à-dire pour tout le monde. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Il est présent partout, ça. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, en disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces faux prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Donc il y a des gens qui se font passer pour des envoyés de Dieu. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leur père a oublié mon nom pour la divinité Baal, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Le froment, le blé, c'est la parole de Dieu. La paille, c'est le faux prophète. Ça brûle, ça pourrit, ça fait du fumier. Le froment, on le met en terre, ça donne de la vie. Ou on fait du pain. Encore une autre comparaison, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Quand Jean-Baptiste dit à toute la foule, en montrant Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, c'est-à-dire du Saint-Esprit et de la parole divine. La parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Donc, vous voyez qu'il y a une affirmation dans la Bible où l'Évangile peut avoir une puissance. Et moi, je vous le montrerai après. Dans des rapports, dans des chiffres. Regardons Zacharie 14, verset 16. C'est un peu avant Matthieu, ça. Zacharie 14, verset 16. Vous pourriez lire tout le chapitre 14, parce que c'est la venue de Jésus sur le mont des Oliviers, qui pose les pieds sur le mont des Oliviers. Il est parti au ciel à partir du mont des Oliviers, il revient là. Hein? Mais bon, au verset 16, Zacharie 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de gens qui vont venir s'opposer à Jérusalem, vouloir le détruire, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller adorer Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a un changement. Il y a une transformation. Qui peut faire cette transformation? On l'a vu dans Jérémie, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc, comme un feu qui purifie. Donc, il y a clairement quelqu'un qui, à Jérusalem, va avoir la parole comme un marteau, comme un feu. C'est le Christ. Comment le Christ ? Regardez, 14, verset 3, « L'Éternel paraîtra et combattra les nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se vendra par le milieu. » C'est le Christ. Ben, Zacharie 14, verset 3 et 4. C'est le Christ. Verset 3 et 4. Et au verset 9, l'Éternel, donc le Christ, sera roi de toute la terre. Au verset 9, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, son nom sera le seul nom. Donc, il y a un moment donné où il y a un choc qui est fait à tous ceux qui étaient contre. Et ce choc amène énormément de gens à être transformés. Prenons Esaïe, par exemple, 18. Ce choc est divin. Ce n'est pas un choc seulement psychologique. C'est un choc spirituel, intense, puissant, qui brise le péché, qui brise l'orgueil et qui amène l'homme à fléchir les genoux. Comme Paul l'avait annoncé, tout genou fléchira dans Philippiens chapitre 2. Donc Esaïe, 760-780 avant Jésus, a écrit ceci, Esaïe 18, verset 7, « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. » Donc, c'est la Syrie et l'Irak, c'est la Mésopotamie. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, donc des anges, sur la montagne de Sion. Donc, la Syrie et l'Irak convertis. Regardons à la fin du chapitre 19. Pas seulement eux, mais aussi les Égyptiens. Verset 21. Ésaïe 19, verset 21, « L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. » Ben oui, parce que ce n'est pas des sacrifices et des offrandes qu'il veut, c'est la conversion du cœur, le pardon des péchés. « Et il les guérira, ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. » Donc, adieu la religion, hein. Oui à la vérité, non aux astuces religieuses. Alors, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, donc les pays d'Irak et de Syrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens iront en Assyrie, les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. Et où donc ? Regardez bien. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » Et où ? À Jérusalem. Devant le Christ ressuscité, tout-puissant, dont tout le monde verra les mains et les pieds troués, et le côté troué. Alors là, on n'est plus dans le petit Jésus de la crèche et dans les morceaux de bois pendus au mur avec un corps dessus, un cadavre. On est dans le Dieu vivant, ressuscité, le Christ Tout-Puissant. C'est extrêmement important de savoir que la puissance de Christ va se révéler et va toucher des gens qui sont hermétiques, rebelles. Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas était un hermétique, un fanatique. Eh bien, il y a des millions de gens qui vont être cassés comme ça, non pas pour être tués, transformés. Sophonie, chapitre 3, versets 9 à 12. Sophonie. C'est pas toujours facile de trouver les livres, hein. Mais bon, il y a une table des matières dans les Bibles. Sophonie, chapitre 3. Neuf à douze. Sophonie. Je vais commencer au verset 8. Sophonie, chapitre 3, verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me mettrai pour le butin spirituel, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple, au pluriel, hein, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc c'est ça, le Soudan, le Kenya, etc., l'Érythrée, Somalie, le Libye, hein, parce qu'il y a 5 fleuves qui composent le fleuve du Nil. Hein. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Il s'agit de Jésus-Christ. Tu n'as plus de malheur éprouvé. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que ta main ne s'affaiblisse pas. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pesant sur eux. En ce jour-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où sont nos pauvres. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Je veux bien prendre 20 prophètes, ils disent tous ça. Hein. J'en ai fait la liste. Hein. Tous. Alors on n'est plus dans un qui a sorti quelque chose de son petit cerveau ou du fond de sa poche. Ils n'étaient pas au même lieu, au même endroit. Ils n'avaient pas le même métier. C'est vraiment Dieu qui a révélé toute sa puissance, toute sa puissance. Alors, prenons Apocalypse, parce que je vais passer quand même, je ne vais pas citer tous les textes. Apocalypse 7, verset 9. Finalement, là, on a le tableau de la réussite de la volonté divine. Et pourtant, l'Apocalypse, chapitre 7, on est à la période dite des tribulations, du chapitre 6 au chapitre 18, et pourtant, durant cette période de tribulation où ils sont, plein de gens sont rebelles, ils vont être transformés par la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils vont être transformés? Parce que juste au chapitre 6, lisez ceci avec moi, le 15 et 16. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi? Devant le Christ, hein? Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. La colère de l'agneau, c'est la colère du Christ. Ce n'est pas une colère pour tuer, c'est une colère qui se met tous à genoux. Vous compris? Que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Si même le diable donne l'impression aujourd'hui de faire des réussites, hein, d'avoir un beau challenge, courez toujours. Il est déjà perdant. Alors au chapitre 7, vous avez les 12 000 de chaque tribu, d'Israël qui sont sauvés, qui vont servir le Seigneur après dans le royaume du Seigneur. 12 000 de chaque tribu, ça fait 144 000. Mais imaginez, l'Église a commencé avec 12 apôtres juifs. Et regardez l'Église dans le monde. 12 apôtres. Bon, imaginons dans le royaume de Dieu, 12 000 fois plus de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul. Vous voyez le boulot qui va se faire ? La grâce, le charisme qui est donné à ses serviteurs. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 8. Et puis après, il n'y a pas que les Juifs qui ont reçu cette grâce de servir le Christ et de manifester sa puissance. Les nations, verset 9, « Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, sur terre, ça, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui assis sur le trône et à l'agneau. » Et qu'est-ce qui se passe ? Au verset 15 à 17, « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources, au pluriel, des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Ce qui nous attend, c'est une manifestation en gloire du Christ. Et je pense qu'on n'est pas très loin, vu que plein de prophéties sont en cours. On n'est pas très loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, mes amis. Regardez avec quelle foi, par exemple, Paul a été dans des régions où, normalement, qu'est-ce qu'il allait faire là ? Hein ? C'est parce qu'il repose sur cette foi-là, il repose sur cette vision-là. Galates, chapitre 1, verset 17. Une véritable vision du monde touché par la grâce. Galates 1, 17. Donc, il a été touché par la grâce sur le chemin de Damas. Il est complètement transformé. Il a reçu l'Esprit Saint. Et puis, au verset 17, il dit ceci. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Puis, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire connaissance de Pierre et je demeurai 15 jours chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà un homme qui, après sa conversion et le don de l'Esprit Saint, qui connaît le Christ, il va évangéliser chez les Arabes et chez les Syriens. Donc, quand on prend un atlas de l'histoire, quand on se dit christianisation, tous ces atlas ne disent pas toute la réalité, il faut regarder ça. L'Évangile est passé partout. Et c'est bien la preuve. Depuis qu'il y a eu tous les carnages au Moyen-Orient, il y a des communautés chrétiennes qui parlent araméen comme Jésus, un peu partout. Ils ne sont pas sortis de n'importe où. Et chez les Arabes, autant que chez des Syriens et des Irakiens. Donc, il y a quand même quelque chose de phénoménal, c'est que l'évangélisation, c'est réellement quelqu'un qui annonce Jésus ressuscité et qui est accompagné du Christ. Et la puissance du Christ touche les gens. Ce n'est pas de la christianisation. C'est ça l'évangélisation. Et au verset 21, toujours dans Galates 1, verset 21, j'allais ensuite, toujours, hein, Galates 1, 21, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, ça y est, pas seulement Damas, la Syrie est très grande, hein, et de la Cilicie, la Turquie. J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Alors, rappelez-vous, hein, ce que Jésus a dit à ses disciples, hein, S'il parle en mon nom, parce que il guérit des malades sans toi, sans nous. Non, non, non. Qui n'est pas contre moi est avec moi. Et c'est le cas de Paul. Il travaillait pour le Seigneur et n'était pas contre Pierre, Jacques et Jean. Un jour, ils se sont rencontrés, quand Dieu l'a voulu, ils se sont rencontrés. Mais l'évangile est l'œuvre de Dieu, d'abord. Ce n'est pas un système pyramidal, un système structuré, c'est l'action du Saint-Esprit dans la foi de quelqu'un qui fait que le cœur de l'autre est touché et le Christ change l'autre personne. Alors, si nous regardons, par exemple, je regardais les cartes sur l'Atlas, hein, je les reprendrai pour la fois prochaine, au mois de novembre, hein, parce que c'est vers le 15 novembre quand je reprends les conférences. Allez, par exemple, on dit sur mon Atlas historique que le christianisme est arrivé en Ukraine vers le 11e siècle. Je viens de vous dire qu'il y en avait déjà à la Pentecôte qui ont été touchés. Eh bien, la preuve, c'est que dans les régions d'Ukraine, il y avait toute une région immense qui était sous la pression des invasions d'Asie et qui était menacée, complètement menacée, et qui contacte, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens qui avaient peut-être une doctrine un peu différente, ils étaient unitaristes, ils ne croyaient pas à la Trinité. Ils croyaient que Dieu avait envoyé Jésus, qu'on devait annoncer Jésus, parce que Dieu avait demandé, c'était son sauveur. Mais il ne savait pas s'expliquer sur la Trinité. Ces peuplades-là, avec leur chef, ont été sollicités par Rome, par l'empereur de Rome, au 5e siècle, pour être protégés. Parce que Rome était régulièrement attaquée par les Vandales et les Burgondes qui venaient de Suisse, qui venaient du Nord, etc. Et ils étaient attaqués et ces communautés d'Ukraine ont promis de soutenir Rome contre ces invasions. Ils sont venus défendre Rome et ils avaient une promesse de l'empereur romain. C'est que l'empereur romain allait leur donner dans le Piémont, dans la Vénétie, un territoire pour pouvoir y vivre et fuir les régions d'Ukraine où il y avait toujours des invasions qui venaient d'Asie. Mais quand ils ont été au service de Rome, après, l'empereur romain se moquait d'eux et n'a pas tenu sa promesse. Et ce qui se passe, c'est que ces gens ont été fâchés et ils ont attaqué Rome. C'est comme ça que Rome est tombée. La démonstration que le christianisme était arrivé, la foi chrétienne est arrivée en Ukraine, et bien la preuve que ce peuple qui est venu aider Rome contre les invasions, hein, les invasions non chrétiennes, ce peuple après s'est retourné contre Rome, qui est chrétien, parce qu'il ne tenait pas sa parole. Vous voyez bien à quel point l'histoire est compliquée, mais c'est comme ça. Rome est tombée parce que l'empereur s'est fichu d'eux, n'a pas tenu sa promesse. Alors, que c'était si simple, sans doute qu'il était entouré d'un tas de rigolos qui n'ont pas voulu qu'il tienne sa promesse. Toujours est-il que ça a coûté cher après, n'est-ce pas? Et après sont venus les Burgondes, les Vandales et tout ça, qui ont repris Rome, etc. Que ça n'a jamais fini. Ça n'a jamais terminé. Quand nous circulons en Afrique centrale, dans la région des déserts, du Sahel, il y a ce qu'on appelle des communautés Touareg, berbères. Ces communautés Touareg ont toutes, il y a 17 sortes de Touareg et de berbères, ils ont tout un symbole qui s'appelle la croix des Touareg. On a deux tableaux à la maison, offerts par des gens de là-bas. La croix des Touareg, donc souvent, c'était sur le pommeau du chameau, il y avait une forme de croix. Pourquoi? Alors qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils ont été chrétiens avant. Ils ont été obligés de devenir musulmans. Mais tout le centre de l'Afrique était chrétien. Y compris une grosse partie de l'Algérie.
Ben,
et où est-ce qu'on le dit dans les atlas? Où est-ce qu'on le dit dans les atlas?
Aïlier, c'est l'acier. Non. C'était pas.
Ça, c'est Thomas. Thomas a été évangélisé l'Éthiopie et il a amené l'évangile là. Puis il est parti dans l'Inde, le sud de l'Inde, et il y a énormément de communautés chrétiennes dites de Thomas. Et quand les catholiques et les protestants sont arrivés pour évangéliser, ils étaient évangélisés, ils connaissaient l'évangile. De Thomas, disciple de Jésus, qui avait mis ses doigts dans les trous. Thomas était jusque-là et il est mort martyr là-haut. Mais sa mort n'a pas été inutile. C'est pour ça que l'évangélisation, pour moi, précède la christianisation. La christianisation, souvent, est une déformation de l'évangile. Pas toujours. Pas toujours. Il faut pas toujours. Par exemple, quand on va en Turquie, on trouve en Cappadoce des centaines de grottes avec des peintures, etc., des icônes, etc., parce qu'il y avait énormément de chrétiens. Quand ils ont été chassés par les musulmans, ils ont fui dans la Méditerranée. Ils sont réinstallés dans les Pouilles, et dans la Calabre, et dans la Sicile. Et bien dans des gorges, des profondes gorges, ou presque inaccessibles, on trouve des grottes avec les mêmes des cinq en Cappadoce. Parce que ces chrétiens-là ont repris leur vie chrétienne dans ces grottes-là, dans les vallées isolées. Hein, parce que, attention, les gens du coin n'étaient pas aussi leurs copains, n'étaient pas tendres. Et ils ont essayé de revivre leur foi pendant tout un temps. Puis après, les Arabes sont arrivés, c'était leur fin. Mais ce qu'il y a, on voit que l'Évangile a voulu continuer. Hein, et en 2008, quand je vais dans ce petit endroit où il y a le tombeau d'Étienne, où il y a quatre vieux prêtres qui vivent là, et que derrière l'église il y a un abri et il y a des milliers de Bibles, et que 100 à 110 000 juifs tous les ans viennent chercher une Bible avec le Nouveau Testament, où est-ce qu'on le dit à la télévision et à la radio? Ça, c'est de l'évangélisation. Les pouvoirs politiques ne savent rien dire sur l'évangélisation. Elle se fait malgré eux. L'évangélisation ne sera jamais arrêtée par les pouvoirs politiques, ni par la prison, ni par la torture. L'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs, pour qu'ils soient sauvés. Alors, c'est très important. Moi, par exemple, je vois sur le site que nous avons, hein, il y a entre 47 à 87 personnes tous les jours qui vont sur le site écouter des enseignements. C'est un site par jour. Imaginez sur une année ce que ça fait. Attentivement. Il y a un responsable de notre église qui s'en occupe. Et puis, il y a les trois messages. Ceci, par exemple, va être sur le site. Il y a les trois messages, lundi, mercredi et vendredi, sur Facebook. Là, il y a entre 45 et 85 personnes. Ça veut dire que le Seigneur touche des cœurs. Ça veut dire que la parole de Dieu touche des cœurs et les prépare à la venue de Jésus. Elle les prépare à la venue de Jésus, c'est clair. C'est pas pour faire... le temps de la christianisation, pour moi, est en train de disparaître. Mais le temps de l'évangélisation progresse énormément. Et le cas, par exemple, que nous avons eu au Pakistan, d'avoir une école reconnue par l'État islamique, chrétienne, évangélique. Évangélique, ça ne veut pas dire protestant, c'est-à-dire simplement qui vit l'évangile. Alors, quand les juifs en Israël se convertissent à l'évangile, ils ne se disent ni catholiques, ni protestants, ni rien du tout, ni orthodoxes, ils se disent juifs messianiques. Juifs qui aiment le Seigneur Jésus de Nazareth, le Messie. Donc clairement, on retourne à l'essentiel. Alors, je voudrais en venir finalement à quelque chose qui est très important. Sur ce... Est-ce que j'ai noté quelque chose, quelque part, il me semble, hein? Parce que j'ai perdu mes notes. Non. Est-ce que j'ai perdu mes notes? Il faut que je regarde dans ma Bible. Je Je n'ai pas ces notes sur moi, c'est un peu dommage. Il y a un site qui est très important, qui s'appelle joshuaproject.net. Et je me rappelle de mémoire plus ou moins ce que j'ai noté. Il y a des peuples où l'évangile est en décroissance. C'est l'Europe occidentale. En décroissance. Il y a des peuples où il est en croissance. En croissance, par exemple, en Belgique, l'évangile est en croissance de 1,47% par an. En France aussi. Mais ça veut dire que ça monte tout doucement, la connaissance de Jésus, de l'évangile. Progresse. Mais on ne le voit pas. Ce n'est pas mis à la télévision, à la radio. Ensuite, ce qui se passe au Vietnam, par exemple. Le Vietnam, c'est 4,7%. Tous les ans, en plus, de chrétiens qui croient en Jésus dans l'évangile. Alors que c'est un pays communiste, qui a chassé les Américains et les Français. Bon, le Laos, c'est la même chose. Et alors, entre l'Inde et la Birmanie, il y a un État qui fait partie, le Nagaland, c'est un État, un des États de l'Inde. Il y a une croissance incroyable de l'évangile. Et je me suis un peu renseigné et je suis tombé sur un livre où un pasteur américain était venu là, dans la ville là.
Entre quoi et quoi?
Le Nagaland, oui. Entre la Birmanie, ce qu'on appelle Myanmar aussi, hein, et le reste de l'Inde. Et le Bangladesh, hein, il est coincé. C'est un pays peut-être 3-4 fois comme la Belgique. Une croissance incroyable de l'évangile, pourquoi? Un pasteur était arrivé là, avec l'évangile. Et puis finalement, il y a un homme qui accepte l'évangile, et avec le pasteur, ils traduisent l'évangile, la Bible, et la partie de Jésus surtout, le Nouveau Testament, dans la langue du pays. Et tout d'un coup, qu'est-ce que font toutes les tribus? Ça se dit, le livre est arrivé. Le livre que nous attendons depuis des milliers d'années est arrivé. Et tout le pays, comme une traînée de poudre, vient à l'évangile. Naturellement, le pasteur américain était dépassé. C'était Dieu qui avait préparé. Et pourquoi est-ce qu'il y a quelque part dans les traditions de cette région, nous attendons le livre que Dieu a promis? Bon, écoutez, c'est impossible, c'était préparé d'avance par Dieu. Toute cette région a accueilli l'évangile. Alors, ça veut dire que Dieu fait le travail qu'il veut. Quand on voit la vie du Sadhu Sundar Singh, un Sikh, une secte très puissante dans le nord de l'Inde, et très rigoureuse, et le Sadhu était destiné à être un grand prince, un grand dirigeant. Il voit pendant la nuit le Christ. Il décide d'être pauvre, il renonce à toutes ses richesses et il évangélise. Toute sa vie. À travers l'Himalaya, le Tibet, l'Inde et tout ça. Au prix de sa vie, il se fait tuer. Mais en attendant, il y a eu combien de conversions et d'âmes qui seront au ciel? Et à la résurrection, qui seront là? Qui seront là? Et il y en a peut-être certainement encore qui croient dans l'évangile là-bas, qui le propagent. Alors, est-ce que la radio et la télévision le disent? Non. Alors, où sont les pays en forte croissance? Les fortes croissances de l'évangile, donc de l'adhésion personnelle à Jésus, Philippines, Vietnam, Cambodge, le Nagaland, et toutes les îles qu'il y a dans la Papouasie, etc., les îles Salomon, etc. Énormément de croissance dans l'évangile. Mais dans tout le sud-est asiatique, c'est 1/5 de la population du monde. Donc c'est beaucoup de monde. Même en Indonésie, l'île de Bornéo, il y a énormément de conversions. Alors que l'Indonésie est musulmane, dans l'île de Bornéo, il y a plein de... Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut dire que Jésus n'est pas agissant? On a eu la visite chez nous de Yolande et de son mari, qui était, c'était un ingénieur, son mari, en Australie, athée. La dame tenait sa famille, les enfants, et puis elle entendait chanter à côté. Elle a été voir la voisine et tout ça, et puis elle a été une fois au culte. Et elle a appris à entendre l'évangile. Une Française émigrée en Australie. Bien sûr, un jour, elle demande à être baptisée par immersion dans l'église évangélique. Son mari dit non. Au bout de 2-3 ans, il lui dit oui. À condition qu'il aille voir ce qu'on raconte. Il s'assied au fond, il écoute tout. Et puis il dit à sa femme, au soir, à la maison, tu diras à ton pasteur de venir. Le pasteur vient le même soir. Hein. C'était aussi sec. Et oui, c'est un couple qu'on a rencontré. Et le lendemain matin, notre cher, je ne sais plus son prénom, je vois encore sa tête, on a été manger ensemble au, là chez Claude Peignoir. Il dit à sa femme, nous allons chez Edaïac, les coupeurs de tête. Il y avait des communautés musulmanes et communautés animistes, donc avec des divinités et tout ça, qui s'attaquaient régulièrement à la machette et se coupaient la tronche. Et il y avait plein d'orphelins et plein de veuves. Nous allons évangéliser chez les Dayaks. Eh bien, il y a des milliers de Dayaks convertis. Et comme il y a tellement d'orphelins, il y a des grands orphelinats. Et qu'est-ce que fait le gouvernement musulman? Il reconnaît l'œuvre chrétienne. Parce que tous ces jeunes-là sont éduqués, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne tuent pas. Et il n'y a plus de carnage dans la région. Donc, l'évangile fait ses preuves. L'évangile, la conversion fait ses preuves. Et des dizaines de sorciers convertis dans les tribus ouais, animistes.
Mais ils en ont vu quand même aussi. Hein. Ils ont quand même eu
ils étaient envoyés par le Seigneur et ont choisi le chemin que le Seigneur lui a donné. Il a accepté, comme Paul qui va chez les Arabes, en Syrie, alors que sûrement ça n'a pas été facile. Partout où Dieu envoie quelqu'un, c'est que Dieu, s'il le veut, va passer devant lui et va toucher des cœurs. C'est ça l'évangélisation. Alors, est-ce qu'il y a des peuples encore en croissance? Oui, en croissance. Toute l'Afrique centrale, le Congo et toutes ces régions-là, Centrafrique, etc., Rwanda, Kenya, tout ça, énormément de croissance de l'évangile. Dans l'Afrique du Sud, je me rappelle, j'ai étudié tout ça tout à l'heure. Demain, je n'ai pas les papiers pour les montrer. Ça sera pour la fois prochaine. Et l'Amérique du Sud, et la croissance de l'évangile. Ne parlons pas de Borsalino, le président du Brésil. Ah bon, ne parlons pas de celui-là, c'est pas un évangélique. Hein. Non, mais il y a des vrais chrétiens qui aiment le Seigneur Jésus, qui ont donné leur vie, ils vont au Seigneur, et puis c'est tout. Et clairement, il y a une croissance de l'évangile à travers le monde. On peut l'estimer à 4,7% tous les ans. Il y a une estimation officielle qu'il y aurait 41% de pays qui ne sont pas touchés par l'évangile. Mais ça, par exemple, je vous donne le cas de l'Afghanistan, le cas du Pakistan, d'autres, de l'Inde centrale. Oui, mais en fait, il y a des chrétiens, il y a de l'évangélisation. On ne peut pas les mettre dans les statistiques, on va les rechercher, les pourchasser et les tuer.
C'est un peu ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de nous dire jusque maintenant, c'est qu'il y a une forme de violence qui habite dès qu'on parle d'évangélisation, et il existe partout des retours de flammes, des gens qui se font couper la tête, des gens qui sont mis de côté, hein, et ça c'est quelque chose qui est un peu problématique, c'est-à-dire que les gens... Bon, ben c'est sûr qu'ils s'exposent, mais commencer par les apôtres, ils sont tous morts martyrs.
Hein, oui, sauf Jean, oui.
Ou ils ont été emprisonnés, ou oui. Martyrs.
Ah ben oui, ah. Mais Jésus l'a dit, ils m'ont haï sans cause, vous haïront sans cause. Et le disciple n'est pas plus haut que son maître. C'est clair, le vrai évangile se heurte à Satan. Le vrai évangile se heurte à l'animosité, à la rébellion de l'homme. Mais ce qu'il y a, c'est que l'évangile progresse. Et je vous ai lu des textes pour vous montrer qu'à Jérusalem, même des peuples qui sont hostiles seront là en train d'adorer Dieu, le Christ. Parce que notre Dieu est manifesté en Christ. Et comme Jésus a dit, mon Père et moi, nous ne sommes qu'un. Donc clairement, à Jérusalem, un jour, des peuples hostiles seront là, tout genou fléchira. L'évangélisation est une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu. La christianisation, c'est souvent une œuvre humaine, orchestrée par les humains, par tous des systèmes, des églises. Bon, la christianisation, il y a tout de même des gens qui croient, qui ont la foi dedans, mais
et heureusement,
mais que, le salut n'est donné que par l'évangile.
Quand même,
oui.
Parce que comment, si avec les mouvements athées ou les mouvements animistes, spirites, je ne sais pas où irait le monde. Hein,
oui.
On va déjà mal là, alors.
Alors, on ne peut pas faire de statistiques, par exemple. Dans des pays qu'on dit qui ne sont pas touchés, par exemple la Corée du Nord, la Chine, on ne peut pas faire de statistiques, parce que ça va se savoir sur Internet, les gouvernements vont aller chercher, il faut qu'on se teste. Hein, l'organisation Porte Ouverte dit simplement qu'il y a 760 millions 700 à 780 millions de chrétiens persécutés, mais ne peut pas dire où et quand. Et dans ceux-là, la moitié durement persécutés. Donc, clairement, on a une progression de l'évangile, même dans les situations les plus hostiles, comme en Iran, etc. Et on a des témoignages, parce que dans les amis, nous connaissons quelqu'un qui est missionnaire en Afghanistan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Mais vraiment, il faut avoir la foi pour y aller. Et c'est ainsi comme ça, le témoignage de Paul qui va en Arabie, en Syrie, puis en Cilicie, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de cas de servantes et serviteurs de Dieu qui sont là. Nous connaissons une jeune femme qui travaille, qui donne cours d'hébreu et de grec à l'Institut Nalgrange, qui a été missionnaire pendant 13 ou 15 ans
au Tchad.
Missionnaire pour traduire dans 3-4 langues véhiculaires du Tchad la Bible, avec 2-3 collègues qui avaient fait les écoles aux États-Unis pour, et qui connaissaient en même temps bien le français, qui pouvaient percevoir les langues, les étudier et faire la traduction. Un jour, elles sont à l'hôpital, elles visitent des malades. Et elles rentrent dans la chambre. C'était toutes des femmes voilées, complètement voilées. Quand elles sont rentrées, elles étaient aussi habillées un peu comme elles, mais pas le visage caché. La porte était bien fermée, et les femmes ont tiré leur voile et ont dit « Nous sommes chrétiennes comme vous. » Même nos maris, qui sont habillés en musulmans, sont chrétiens. On s'habille comme les musulmans pour ne pas se faire couper la tête. Il y a donc une situation de vie chrétienne dispersée, une vie chrétienne authentique à travers le monde. Et ça, c'est la grande victoire du Christ, c'est pas la nôtre.